Chapitre 56. Yeux jaunes. N'était le grattement de la plume de Perrine, pas un bruit ne troublait le silence dans la salle commune de l'auberge de la Cascade à Vin. À part l'inévitable arame, Perrine était seule dans la vaste salle où la lumière de la fin de matinée, filtrant des fenêtres, formait sur le sol toute une série d'îlots de clarté. Aucune odeur de cuisson ne montait de la cuisine, et il n'y avait pas un seul feu allumé dans le village, où on avait pris soin d'arroser même les braises qui couvaient sous les cendres. Pourquoi donc aurait-on facilité la tâche de l'adversaire, après tout? Le Zingaro, en supposant qu'il faille l'appeler comme ça, mais un homme, épais ou non, ne changeait jamais au point de cesser d'être lui-même, était appuyé au mur, près de la porte principale, et il regardait l'ancien apprenti forgeron. Qu'attendait-il donc? Que voulait-il? Trempant sa plume dans l'encrier, Perrine écarta la troisième feuille de parchemin et entreprit d'écrire sur la quatrième. Un arc au poing, Ban Alcine poussa la porte, entra et se gratta le nez pour dissimuler sa gêne.
« Les deux aïeuls sont revenus !»
annonça-t-il d'un ton égal. Mais il ne pouvait s'empêcher de sauter d'un pied sur l'autre.
« Des trolocs arrivent du nord et du sud. Seigneur Perrine, ils sont des milliers.
Arrête de m'appeler comme ça !»
marmonna distraitement Perrine, concentrée sur son travail d'écriture. Comment aurait-il pu adopter le style romantique qu'adoraient les femmes? Pour lui, écrire revenait à coucher sur le papier ce qu'il ressentait, sans se soucier de la forme. Trempant de nouveau sa plume dans l'encre, il ajouta quelques lignes à sa lettre.
« Je ne te demanderai pas de me pardonner. Ce que j'ai fait, je devais le faire. M'accorderais-tu ton pardon? Puisque je ne l'implorerai jamais, cette question restera sans réponse. Tu comptes plus pour moi que la vie. Surtout, ne va jamais croire que je t'ai abandonné. Quand le soleil brille sur toi, j'en souris de bonheur. Chaque fois que tu entendras le vent murmurer dans les branches en fleurs d'un pommier, dis-toi que c'est ma voix qui souffle que je t'aime. Mon amour t'appartient pour l'éternité, Perrine. »
Un moment, le jeune homme relut sa prose. Ça ne disait pas tout, loin de là, mais il faudrait faire avec. Le temps pressait, et de toute façon, il lui manquait les mots justes pour exprimer certaines choses. Quand il eut séché l'encre avec du sable, il plia soigneusement les quatre feuilles. Puis il faillit écrire « pour fail bachéré » et se reprit à temps, ajoutant « pour fail aïbara » sur la missive. Au Saldaéa, une épouse adoptait-elle le nom de son mari? Il n'en savait rien, mais dans certains pays, ça ne se faisait pas. Cela dit, le mariage avait eu lieu à Deux-Rivières, et l'élu de son cœur devrait s'adapter aux coutumes locales. Posant la lettre sur le manteau de la cheminée, qui sait, elle parviendrait peut-être un jour à fail. Il tira sur le large ruban rouge du jeune marié qu'il portait autour du cou, afin qu'il tombe bien droit sur les revers de sa veste. Selon les coutumes, il était censé le porter durant 7 jours, histoire que tout le monde sache qu'il venait de se marier.
« J'essaierai de ne pas le perdre »,
murmura-t-il, les yeux baissés sur la lettre. Fail avait tenté de nouer un ruban dans sa barbe. À présent, il regrettait de l'en avoir empêché.
« Je vous demande pardon, Seigneur Perrine !»
fit Ban, toujours très agité.
« Mais je n'ai pas compris ce que vous venez de dire !»
L'angoisse voilant son regard, Aram se mordait nerveusement la lèvre inférieure.
« Il est temps de revenir au train-train quotidien !»
dit Perrine. Fail recevrait peut-être un jour la lettre, par miracle.
« Mais cesse de me vouvoyer et de me donner du Seigneur, bon sang !»
s'écria Perrine en ramassant son arc sur la table. Sa hache et son marteau pendaient déjà à sa ceinture. Devant l'auberge, les compagnons attendaient, déjà en selle. L'embout de la longue hampe calée dans un de ses étriers, Will Alcine portait le stupide étendard à tête de loup. Dire qu'il avait refusé de s'en charger, un jour pas si lointain que ça. À présent, tous les survivants des fidèles du premier jour, les héros de Perrine, se disputaient cet honneur. Un arc dans le dos et une épée au côté, Will se rengorgeait comme un jeune coq de village. Alors que Ban montait en selle, Perrine l'entendit murmurer.
« Le chef est aussi froid qu'un étang en hiver. De la glace. Ça ne se passera peut-être pas si mal que ça aujourd'hui. »
Perrine n'accorda aucune attention à la remarque. Sur la place verte, les femmes formaient un cercle autour du mât où la version géante du ridicule étendard battait au vent. 5 ou 6 cercles concentriques de braves combattantes armées de faux, de fourches, de haches de bûcheron, voire de couteaux de cuisine et de hachoirs. La gorge serrée, Perrine enfourcha trotteur et se dirigea vers le mât. Tous les enfants présents à Champ des Mondes se massaient les uns contre les autres au milieu du cercle de femmes. Alors qu'il inspectait les rangs, Perrine sentit que tous les regards le suivaient. Il capta bien entendu une odeur de peur panique. Si les enfants ne dissimulaient pas leur terreur, les adultes tentaient tant bien que mal de la cacher, mais l'odeur les trahissait. Perrine s'arrêta devant Marine Alvéré, Daïs Congar et toutes les autres femmes du cercle. Un des marteaux de son mari sur l'épaule, Alsbeth Luhan portait le casque volé à un fils de la lumière la nuit de son évasion. Un peu de travers, le casque, à cause de son épaisse natte. Un couteau à découper au poing, Neissa Ayelin en avait glissé deux autres à sa ceinture.
« Nous avons tout prévu !»
annonça Daïs, regardant Perrine comme si elle s'attendait à des objections, avec la ferme intention de ne pas en tenir compte. Munie d'un fer de fourche fixé à un manche plus grand qu'elle, Daïs semblait s'accrocher à son arme comme un naufragé à sa planche de salut.
« Si les Trollocs percent nos défenses, les hommes seront très occupés. Dans ce cas, nous nous chargerons d'évacuer les enfants. Les plus grands savent que faire. Et les autres ont tous joué à cache-cache dans le bois. Ils y resteront jusqu'à ce qu'ils puissent en sortir en toute sécurité. »
Les plus grands. Des garçons et des filles de 13 ou 14 ans portaient chacun un bébé attaché dans le dos et tenaient par la main des garçonnets et des fillettes. Les filles plus âgées se tenaient dans les rangs avec leur mère. Baud Cotton serrait le manche d'une hache à deux mains et sa sœur Eldrine brandissait une pique à sanglier. Les garçons, eux, étaient avec les défenseurs ou sur les toits de chaume avec leur arc. Les Ingari se tenaient eux aussi au milieu du cercle de femmes. Ils ne se battraient pas, mais chacun avait deux bébés attachés dans le dos et en serrait un dans ses bras. Tendrement enlacés, Raen et Hila évitaient soigneusement de regarder Perrine et Aram. « Ils y resteront jusqu'à ce qu'ils puissent en sortir en toute sécurité. »« Tu parles. »«
Je suis désolé, »
dit Perrine. Il dut s'interrompre pour s'éclaircir la gorge. Jamais il n'avait voulu en arriver là. Mais qu'aurait-il pu faire d'autre? Même se rendre au Trolloc ne les aurait pas empêchés de piller et de massacrer. Depuis le début, l'issue était inévitable.
« Je sais que je n'ai pas bien agi avec Fail. Mais j'ai fait ce que je devais faire. Je vous prie de le comprendre.
Ne sois pas stupide, Perrine, »
fit Alsbeth, pleine de compassion.
« Tu sais que t'entendre dire des âneries me tape sur les nerfs. Crois-tu que nous aurions voulu que tu fasses autre chose ?»
Un hachoir dans une main, Marine tendit l'autre pour tapoter le genou du jeune homme.
« Tout homme qui mérite qu'on cuisine amoureusement pour lui aurait fait la même chose.
Merci. »
La voix très rauque, Perrine se demanda s'il n'allait pas éclater en sanglots. Malgré ses efforts, il ne parvint pas à reprendre un ton normal. Ses femmes allaient le prendre pour un parfait crétin.
« Merci. Je n'aurais pas dû vous mentir, mais Fail ne serait pas partie si elle avait soupçonné la vérité.
« Perrine !»
s'esclaffa Marine. Apeurée comme elle l'était, rire ainsi de bon cœur, Perrine aurait donné cher pour avoir la moitié du courage de cette femme.
« Nous avons compris où tu voulais en venir, avant même que tu l'aies mise sur son cheval. Et je parierais qu'elle n'était pas dupe non plus. Les femmes se résignent souvent à faire certaines choses pour satisfaire leurs compagnons. Maintenant, à toi d'aller jusqu'au bout de ton devoir. Les gamins sont l'affaire du cercle des femmes. »
Perrine trouva la force de sourire à l'épouse de Bran.
« Très bien, maîtresse, »
dit-il en se tapotant le front du bout d'une phalange pliée.
« Veuillez m'excuser. Je suis assez malin pour ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. »
Les femmes qui entouraient Marine gloussèrent, tandis que le jeune homme faisait tourner bride à trotteur. Alors que les autres compagnons chevauchaient derrière Will et son désolant étendard, Perrine s'avisa que Ban et Tel le suivaient. D'un geste, il leur fit comprendre de se porter à sa hauteur.
« Si ça tourne mal, »
dit-il quand les deux jeunes gens eurent obéi.
« Les compagnons devront revenir ici pour aider les femmes.
Mais, »
voulut objecter Tel,
« il n'y a pas de mais. Si ça tourne au désastre, vous viendrez aider les femmes et les enfants à sortir du village. C'est compris ?»
Les deux jeunes hommes acquiescèrent à contre-cœur.
« Et toi, que feras-tu ?»
demanda Ban. Perrine ignora la question.
« Aram, tu resteras avec les compagnons. »
Avançant entre Trotteur et le cheval de Tel, le Zingaro ne daigna même pas lever la tête.
« Moi, je vais là où tu vas, »
dit-il simplement. Une réponse sans équivoque. Quoi que dise Perrine, Aram n'en ferait qu'à sa tête. Les vrais seigneurs avaient-ils ce genre de tracas avec leurs hommes ? Se demanda Perrine, de plus en plus accablée. À l'extrémité ouest de la place verte, les capes blanches attendaient en colonne par quatre. Pour que leurs armures et leurs armes brillent ainsi au soleil, ces hommes avaient dû passer la moitié de la nuit à les polir. Dane Bornald et Jared Billard firent pivoter leur monture afin d'être en face de Perrine. S'il se tenait bien droit sur sa selle, Bornald empestait l'alcool de pomme. Dès que ses yeux se posèrent sur Perrine, Billard eut une grimace haineuse pire que toutes celles que le jeune homme lui avait vues.
« Vous n'êtes pas encore en position ?»
demanda Perrine. Les yeux baissés sur la crinière de son cheval, Bornald ne répondit pas.
« Nous partons, créature des ténèbres !»
cracha Billard. Des murmures courroucés coururent dans les rangs des compagnons, mais le fils de la lumière les ignora.
Pareillement, il fit semblant de ne pas avoir vu la main d'Aram voler vers la poignée de son épée.
« Nous allons nous frayer un chemin dans les lignes de tes amis, puis gagner Colline de la Garde et rejoindre le reste de nos forces. »
Un départ ? 400 soldats tournant le dos à la bataille ? Des capes blanches, certes, mais des cavaliers expérimentés, pas des soldats de fortune. Des militaires dont le chef avait promis de soutenir les hommes de Deux-Rivières là où les combats seraient les plus sanglants. Pour que Champ des Mondes ait encore une chance, Perrine devait convaincre ses hommes de rester. Comme si l'humeur de son maître déteignait sur lui, Trotteur hennit et secoua la tête.
« Bornhold, tu crois toujours que je suis un suppôt de ténèbres ? Jusque-là, à combien d'attaques as-tu assisté ? N'as-tu pas vu que les Trollocs veulent ma peau autant que celle des autres ?»
Bornhold leva lentement la tête. Le regard hanté, mais également voilé, il serra plus fort les rênes de sa monture. Un réflexe, mais qui en disait long sur ses doutes.
« Crois-tu que j'ignore la vérité sur ses défenses, Perrine Aibara ? Tu n'as pas participé à leur conception, je le sais. Ne resterai pas ici pour te voir livrer d'innocents villageois au Trolloc. Quand ce sera fini, danseras-tu sur les cadavres, suppos ? Eh bien, les nôtres ne seront pas dans le lot. J'entends vivre assez longtemps pour te voir répondre de tes crimes devant un tribunal. »
Perrine tapota l'encolure de Trotteur pour le calmer. Coûte que coûte, il devait retenir ses hommes.
« Tu me veux, fils de la lumière ? Eh bien, tu mourras ! Quand ce sera fini, les Trollocs en déroute. Je ne résisterai pas si tu tentes de m'arrêter. »«
Les paroles en l'air !»
siffla Bornhold.
« Tu as prévu que tout le monde mourrait, à part toi. Si tu t'enfuis, comment sauras-tu que tu avais raison ?»
lâcha Perrine, méprisant.
« Je tiendrai ma promesse. Mais si tu t'étales comme un lapin, tu risques de ne jamais me retrouver. Alors file si c'est ce que tu veux. Pars ! Et essaie d'oublier ce qui va se passer ici. Où sont tes beaux discours sur la protection des villageois ? Depuis ton arrivée, combien de malheureux les Trollocs ont-ils tués ? Mes proches n'ont été ni les premiers ni les derniers. Allez, va-t'en ! Ou reste, si toi et tes soldats êtes encore des hommes. Et si tu as besoin de recouvrer ton courage, Bornhold, inspire-toi de nos femmes. Chacune est plus héroïque toute seule que tous tes fils de la lumière réunis.
Bornhold tressaillit comme si chaque mot était une gifle. Un moment, Perrine crut qu'il allait en tomber de sa selle. Mais il se stabilisa et défia le jeune homme du regard.
« Nous restons, »
dit-il d'une voix rauque.
« Seigneur Bornhold !»
s'écria Biard.
« Proprement !»
rugit Bornhold.
« Si nous devons mourir ici, nous périrons proprement. Oui, Perrine Aibara, nous restons. Mais quand tout sera terminé, je te verrai mort. Pour l'honneur de ma famille et de mon père, je cracherai sur ton cadavre. »
Faisant tourner bride à sa monture, l'officier alla rejoindre ses hommes. Avant de le suivre, Biard eut un rictus haineux à l'intention de Perrine.
« Tu n'as pas l'intention de tenir parole ?»
demanda Aram.
« Tu ne peux pas. Je dois inspecter tous les postes de combat. »
éluda Perrine.
« Et le temps presse. »
Pour tenir parole, il devrait déjà vivre jusque-là, et ce n'était pas gagné. Talonnant sa monture, il se dirigea vers la lisière ouest du village. Derrière la barrière de pieux, les défenseurs attendaient, leurs lances, leurs hallebardes ou leurs piques improvisées fièrement brandies. Après avoir détourné presque tous les outils du village pour en faire des armes, Harald Luhan, reconnaissable à son gilet de cuir de forgeron, se tenait au milieu des combattants et brandissait une lame de faux fixée sur un manche de 8 pieds de long. Les archers, derrière cette première ligne de défense, formaient un rang serré interrompu à intervalles réguliers par 4 catapultes. S'arrêtant pour dire un mot à chaque homme, Abel Cotton passait en revue ses archers d'élite. Perrine rejoignit le père de Matt.
Il paraît qu'ils viendront du nord et du sud, mais reste quand même vigilant.
Ne t'en fais pas. S'il le faut, j'enverrai la moitié de mes gars là où on en aura besoin. Les Trollocs vont se casser les dents sur les jambes de rivière, c'est moi qui te le dis.
Abel eut un sourire en tout point semblable à celui de son fils. À la sincère confusion de Perrine, les hommes crurent bon de lancer des vivates sur son passage et celui des compagnons.
Yejoun ! Yejoun ! Yejoun ! Yejoun ! « Yejoun ! Yejoun !»
crièrent certains défenseurs.
« Seigneur Perrine ! Seigneur Perrine !
Seigneur Perrine ! Seigneur Perrine !
Seigneur Perrine ! Seigneur Perrine !»
lancèrent d'autres soldats improvisés. Voilà ce qui arrivait quand on n'était pas assez sévère au début. Maintenant, Perrine ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Au sud, c'était Tam qui assumait le commandement. L'air bien plus sinistre qu'Abel, il allait et venait, une main sur la poignée de son épée, avec la grâce brutale d'un champion. Tant de félinité avait quelque chose d'étonnant, chez un fermier un peu empâté aux tempes plus que grisonnantes. Bien entendu, Tam tint à Perrine un discours qui fit écho à celui de son ami Abel.
Les gens de Deux-Rivières sont plus coriaces qu'on le pense, Perrine. Ne t'inquiète pas, tu seras fier de nous aujourd'hui.
Alana se tenait près d'une des 6 catapultes affectées à ce secteur. Pour l'heure, elle s'affairait sur une grosse pierre qu'on était en train de hisser dans le panier de l'engin de guerre. Revêtue de sa cape caméléon, Yvonne veillait sur son Aes Sedai depuis la selle de son cheval. À l'évidence, il s'était assigné une mission, combattre là où était Alana, et un objectif, faire en sorte qu'elle se tire vivante de cette affaire. Le champion daigna à peine regarder Perrine. En revanche, l'Aes Sedai cessa de passer les mains sur la pierre et suivit le jeune homme du regard. Sous ses yeux perçants qui l'évaluaient et le jugeaient, alors que des vivates continuaient à le saluer, l'ancien apprenti forgeron rentra d'instinct la tête dans les épaules. John Tain et Samuel Crowe étaient tous deux responsables du secteur où la ligne de pieux, à l'est de l'auberge, s'étendait un peu au-delà des rares maisons. Perrine tint aux deux hommes le même discours qu'à Abel et lui firent une réponse très semblable. Le torse couvert par une cotte de mailles rouillée en de multiples endroits, John avait vu de la fumée monter de l'endroit où se dressait son moulin. Toujours aussi cocasse avec son visage chevalin et son long nez, Samuel était sûr que sa ferme aussi avait brûlé. Aucun des deux hommes ne s'attendait à une journée de tout repos, mais ils étaient déterminés à lutter jusqu'au bout. Perrine partit en direction du nord, vers le site où il avait décidé de combattre. Jouant avec une extrémité du ruban, il regarda vers Colline de la Garde, là où Fail était parti, et se demanda pourquoi il avait choisi ce champ de bataille-là.
« Vole librement, Fail. Oui, vole librement, mon cœur. »
En principe, Bran commandait cette section de la ligne défensive. Apercevant Perrine, il cessa de passer ses hommes en revue et gratifia le « général » de la révérence la plus appuyée que lui permit son impressionnante bedaine. Non loin de là, chouffa autour de la tête et voile noire relevée, Gaol et Chiad étaient déjà prêts au combat. Côte à côte, nota Perrine. Quoi qu'il soit arrivé entre eux, ça semblait primer la querelle de sang de leur tribu. Loyal serrait deux haches de bûcheron dans ses incroyables battoirs. Ses oreilles poilues fièrement dressées, il semblait très grave, mais aussi déterminé que tous les autres.
« Tu crois que je t'étalerai comme un lapin ?»
s'était-il indigné quand Perrine lui avait suggéré de suivre Fail la veille au soir.
« Perrine, je suis venu avec toi, et je ne partirai pas sans toi. »
Sur ces mots, l'ogier avait éclaté d'un rire tonitruant.
« Tu te rends compte, Perrine ? Quelqu'un écrira peut-être un récit sur moi un jour. Nous ne cherchons pas la gloire, mais un ogier finira peut-être dans la peau d'un héros. Hé, mon ami, c'était une plaisanterie. Si tu riais, allons, viens, allons nous raconter notre blague, et penser ensemble à Fail qui vole librement. »
« Ça n'a rien d'une plaisanterie, Loyal. »
souffla Perrine, tandis qu'il passait les hommes en revue, tentant de ne pas entendre leur vivate.
« Que tu le veuilles ou non, tu es un héros. »
L'ogier sourit à son ami humain avant de se reconcentrer sur le terrain découvert, au-delà de la haie de pieux. Des bâtons rayés de blanc marqueraient les intervalles de 100 pas jusqu'à 500. Au-delà, s'étendaient des champs de céréales et de tabac, dévastés lors des attaques précédentes. Plus loin encore, derrière les ultimes clôtures, la forêt reprenait ses droits. Parmi les défenseurs, Perrine reconnut tant de visages familiers. Le gros Edward Candwin, à côté de Paet Alcar, tous deux armés d'une lance. Buell Dautry, le fabricant de flèches aux cheveux blancs, coude à coude avec son vieux complice, le maître artisan expert en arc. Plus loin, Perrine aperçut Jack Alsin auprès de son cousin chauve, Witt, et de Flan Lewin, un vrai parangon de minceur, voire de maigreur, comme tous les hommes de sa famille. James Thorfinn et Hugh Marwyn étaient là aussi, deux des premiers héros à avoir suivi Perrine. Comme si avoir raté l'embuscade dans le bois de l'Ouest avait ouvert un fossé entre eux et les autres jeunes gens, ils ne s'étaient jamais joints aux compagnons, mais sans pour autant fuir les combats. Elam Dautry, Dav Ayelin, Ewin Fingar, Harry Coplin et son frère Darl, le vieux Billy Congar, Beryn Tain, le frère du meunier, sans parler d'Atan Dearn, si gros qu'on aurait pu le croire incapable de bouger, et de Kevry Malazar, un vieil homme dont les petits-fils étaient déjà mariés et pères de famille, et Tuck Padwin, et Perrine se força à interrompre ce recensement qui risquait de ne jamais finir. Talonnant trotteur, il alla rejoindre Verin, campé près d'une catapulte sous l'œil attentif de Thomas, perché sur son cheval gris. La Aes Sedai rondelette, vêtue de marron, étudia un moment Aram avant de lever les yeux sur Perrine, le front plissé comme si elle se demandait en quel honneur il venait la déranger.
« Je suis surpris qu'Alana et vous soyez encore ici, »
dit Perrine.
« Traquer des filles capables de canaliser le pouvoir ne vaut pas de risquer sa vie. Tenir les fils d'un Taveren non plus, selon moi. »«
C'est ce que nous faisons, tu crois ?»
Croisant les bras, Verin inclina pensivement la tête.
« Franchement, ce serait un moment mal choisi pour nous en aller. Dans ton genre, tu es aussi intéressant à étudier que Rand, et que le jeune Matt. Si je pouvais me diviser en trois, je vous suivrais à chaque instant du jour et de la nuit, quitte à vous épouser pour ne pas perdre une miette de votre vie.
« Je suis déjà marié, »
répondit Perrine. Une phrase qui sonnait bizarrement dans sa bouche. Agréablement aussi. Oui, il avait une femme, et elle était en sécurité. Vérine l'arracha à sa tendre rêverie.
« C'est vrai. Mais tu ne sais pas ce qu'épouser Zarine Bachéré impliquera pour toi, pas vrai ?»
Vérine tendit une main, saisit le manche de la hache de Perrine, et fit tourner l'arme dans sa ceinture.
« Quand te décideras-tu à la troquer contre un marteau ?»
D'instinct, et sans cesser de regarder la Sedai, Perrine fit reculer Trotteur afin de soustraire sa hache à toute curiosité mal placée. Ce qu'impliquerait son mariage avec Feil ? Renoncer à la hache ? Que voulait dire cette femme et que savait-elle ?
« Issam !»
lança soudain une voix gutturale puissante. Des Trollocs apparurent, tous une bonne demi-fois plus grands et deux fois plus larges qu'un homme normal. S'arrêtant avant d'être à portée de flèches, les monstres serrés les uns contre les autres évoquaient une sombre marée sur le point de déferler. Hideux mélange d'humanité et de bestialité, leurs museaux et leurs becs surmontés par des yeux brûlants de haine, ils attendaient en brandissant des épées incurvées, des haches de guerre, des lances à la pointe barbelée et des tridents. Derrière les Trollocs, des myrdraals montés sur des chevaux noirs comme la nuit galopaient en levant le poing, leurs capes de ténèbres insensibles au vent qui aurait pourtant dû la faire onduler.
« Issam !»«
Très intéressant !»
souffla Vérine. Perrine n'aurait pas nécessairement employé ce mot. C'était la première fois que les Trollocs criaient quelque chose qui semblait avoir un sens, même si le jeune général aurait été bien en peine de dire lequel. Caressant du bout des doigts son ruban nuptial, Perrine se força à chevaucher calmement jusqu'au centre de la ligne de défenseurs. Les compagnons le suivirent, la ridicule tête de l'eau rouge battant toujours fièrement au vent. L'âme au clair, Aram tenait son épée à deux mains.
« Préparez-vous !»
cria Perrine. Constatant que sa voix ne tremblait pas, il eut du mal à en croire ses oreilles.
« Issam !»
La marée noire se mit en mouvement en hurlant sa haine. Feil était en sécurité. Pour Perrine, rien d'autre ne comptait. Et s'il se forçait à ne pas regarder le visage des hommes qui le flanquaient, tous condamnés à mort désormais, il en irait ainsi jusqu'à la fin. Les mêmes cris de haine montaient du sud, les deux côtés en même temps. Jusque-là, les Trollocs n'avaient jamais essayé ça. Mais Feil était saine et sauve.
« À 400 pas !»
lança Perrine. Les archers levèrent leurs armes. Pour ne pas gaspiller de flèches, il fallait laisser avancer encore un peu la marée noire.
« Tirez !»
Assourdi par les hurlements des Trollocs, Perrine n'entendit pas le bruit des centaines de cordes qui se détendaient en même temps. Mais une volée de flèches monta majestueusement dans le ciel, puis retomba en pluie sur les assaillants. Des pierres lancées par les catapultes explosèrent, semant la mort dans les rangs serrés de monstres. Les Trollocs survivants piétinèrent sans hésiter leurs camarades moins chanceux. Quelques myrdraals basculèrent de leur monture sans que ça ait un effet notable sur l'assaut. Cette fois, rien ne semblait pouvoir arrêter les créatures des ténèbres. Perrine n'eut pas besoin de répéter l'ordre de tirer. De même, les archers décochèrent une deuxième volée, qui amorça sa descente alors que la première venait juste de s'abattre sur les Trollocs. Une troisième suivit, puis une quatrième et une cinquième. Les pierres des catapultes faisaient des ravages. Galopant d'un engin de guerre à l'autre, Vérine se penchait sur sa selle pour imposer les mains sur les projectiles. Mais les Trollocs avançaient toujours, et les hommes accroupis derrière la barrière de pieux commencèrent à se préparer au contact. Le sang de Perrine se glaça dans ses veines. Le sol était jonché de cadavres de monstres. Pourtant, la marée semblait toujours aussi puissante et irrésistible. Affolé, Trotteur hennit, mais son maître ne l'entendit pas dans le vacarme ambiant. Lentement, Perrine dégaina sa hache, dont le tranchant et la pique reflétèrent la vive lumière du soleil. Il n'était pas encore midi. La journée serait longue, pour ceux qui arriveraient jusqu'au bout.
« Mon cœur est à toi pour toujours, Feil. »
Cette fois, les pieux ne réussiraient pas à... Sans même ralentir, le premier rang de Trollocs vint littéralement s'empaler sur les pieux. Des cris de douleur retentirent, ponctuant la fin atroce de centaines de créatures contrefaites dont le groin ou le bec dégoulinaient maintenant de sang. Mais les monstres qui venaient derrière, achevant ainsi leur fer d'armes, s'en servirent comme de marchepied pour négocier l'obstacle. Tous ne réussirent pas, mais le mouvement était lancé et il ne cesserait plus. Une dernière volée de flèches éclaircit un peu la masse d'attaquants, juste avant le début des corps à corps. Alors que les piquiers, les halbardiers et les porteurs d'armes sans nom lardaient de coups les géants en côte de maille, les archers continuèrent à tirer, désormais à l'horizontale, leurs flèches passant juste au-dessus du crâne de leurs camarades. Les garçons postés sur les toits tirèrent aussi, soutenant de loin l'héroïque résistance de leurs pères et de leurs frères aînés. mais la ligne de défense faiblissait. En une dizaine d'endroits, elle menaçait de céder. Et si ça arrivait...
« Reculez !»
cria Perrine. Un trolloc à hure de sanglier, déjà couvert de sang, parvint à se frayer un passage au milieu des défenseurs. Une épée courte au poing, il chargea Perrine, qui lui fendit le crâne d'un seul coup de hache. Fou de terreur, Trotteur devenait de plus en plus difficile à contrôler.
« Reculez !»
Darl Coplin s'écroula, la cuisse transpercée par une épée à la lame plus large qu'un poignet d'homme. Tout en brandissant une pique à sanglier, le vieux Billy Congar tenta de tirer le blessé en arrière. Harry Coplin, hurlant comme un possédé, vint couvrir la retraite de leur frère grièvement touché.
« Reculez, entre les maisons !»
Quelqu'un avait-il entendu son ordre, le relayant à d'autres hommes? Ou était-ce simplement l'effet de l'intolérable pression des attaquants? Quoi qu'il en soit, les défenseurs commencèrent à reculer, cédant chaque pouce à contre-cœur, mais le cédant quand même. Loyal utilisait ses haches comme des marteaux, une méthode qui en valait une autre. À ses côtés, Bran frappait inlassablement avec sa lance. Son casque perdu dans la mêlée, il arborait au front une vilaine coupure. Toujours en selle, Thomas faisait le vide autour de Vérine à grands coups d'épée. Les cheveux en bataille, Aes Sedai était tombée de selle, mais elle continuait à bombarder de boules de feu les trolloques qui l'attaquaient, en faisant exploser plus d'un. Partout, on luttait héroïquement, mais ça ne suffirait pas. Les défenseurs reculaient toujours, et ils auraient bientôt atteint l'endroit où se tenait Perrine. Gaol et Chiad combattaient dos à dos. La promise n'avait plus qu'une lance, et le guerrier taillait dans les chairs adverses avec son grand couteau. Sur les flancs, les défenseurs avaient adopté une formation en demi-cercle pour opposer une plus grande résistance aux trolloques et les empêcher de passer. Des archers les soutenaient, ralentissant encore les monstres. De brillantes initiatives, mais là encore, ça ne suffirait pas. Un monstre aux cornes de bélier tenta soudain d'arracher Perrine à sa selle, ou de monter en groupe avec lui, ce n'était pas très clair. Quoi qu'il en soit, vaincu par le poids supplémentaire, Trotteur s'écroula. Les jambes coincées sous sa monture, et tout en écartant de son cou des mains plus grandes que celles d'un ogier, Perrine tenta sans grand succès de frapper dans son dos avec sa hache. Le trolloc hurla à la mort quand la lame d'Aram s'enfonça dans sa nuque. Alors que le monstre s'écroulait sur Perrine, l'aspergeant de sang, le Zingaro, très calme, se retourna pour ouvrir en deux le ventre d'un autre monstre. Grognant de douleur, Perrine se dégagea tandis que Trotteur se relevait déjà. Mais le jeune homme n'eut pas le temps de remonter en selle. Roulant sur le côté, il parvint à ne pas se faire piétiner la tête par un grand cheval noir. Un rictus sur son visage sans yeux, le blafard qui montait les talons se pencha sur sa selle et tenta de frapper Perrine au moment où il se relevait. L'épée noire siffla juste au-dessus de la tête du jeune général. D'instinct, celui-ci décrivit un arc de cercle avec sa hache et coupa net un des intérieurs du cheval. L'animal s'écroula et Perrine, impitoyable, enfonça le tranchant de sa hache à l'endroit où auraient dû se trouver les yeux de son maître. Quand il eut dégagé son arme, Perrine tourna la tête juste à temps pour voir la fourche de Daes Kongar s'enfoncer dans la gorge d'un trolloc au museau de chèvre. Le monstre referma une main sur la hampe de l'arme et tenta d'embrocher Daes avec la lance barbelée qu'il tenait dans l'autre. Très calme, Marvin Alvéré décocha un formidable coup de hachoir sur le bras du monstre. Après l'avoir rendu manchot, elle l'acheva en le décapitant à moitié, toujours aussi sereine que si elle était en train de s'affairer dans sa cuisine. Un peu plus loin, un trolloc venait de saisir Bod Cotton par sa natte, la soulevant du sol. Hurlant de terreur, la jeune femme abattit sa hache sur l'épaule du monstre tandis que sa sœur, Eldrin, lui enfonçait sa pique à sanglier dans la poitrine. Histoire de faire bonne mesure, Neissa Ayelin planta dans le flanc du trolloc son énorme couteau de cuisine. À droite et à gauche de la ligne défensive, aussi loin que Perrine pouvait voir, les femmes étaient venues se battre à côté de leurs hommes. Si les défenses tenaient encore, c'était uniquement grâce à ce soutien inattendu. Presque acculés aux maisons, désormais, des hommes et des femmes luttaient pied à pied. Des femmes ? Parmi ces héroïnes, une bonne partie sortait à peine de l'enfance. Mais après tout, certains héros n'avaient jamais eu besoin de se raser. Et sauf un miracle, ils n'en auraient jamais l'occasion. Où étaient donc les capes blanches ?
Les enfants !
Si les femmes étaient ici, qui allait s'occuper des enfants ?
Où sont ces maudits fils de la lumière ?
S'ils arrivaient maintenant, les défenseurs obtiendraient quelques minutes de sursis. Juste ce qu'il fallait pour mettre les gosses à l'abri. Le petit messager brun qui était venu parler à Perrine la veille le tira par la manche, alors qu'il regardait autour de lui pour localiser les compagnons. C'était à eux de se frayer un chemin jusqu'au petit. Il allait le leur ordonner, puis ils se battraient ici jusqu'à la fin.
« Seigneur Perrine !»
cria le petit messager.
« Seigneur Perrine !»
Tentant d'abord de se dégager, Perrine prit le gosse sous son bras. Sa place était avec les autres, après tout. Séparés par le flot de monstres, Ban, Tel et les autres compagnons arrosaient les trolocs de flèches par-dessus le crâne des hommes et des femmes de Deux-Rivières. Pour pouvoir tirer ainsi, Will avait planté le maudit étendard dans le sol. Par miracle, Tel avait réussi à attraper Trotteur et à attacher la bride de cheval au pommeau de sa propre selle. Le gamin pourrait filer sur le dos de Trotteur.
« Seigneur Perrine, il faut m'écouter! Maître Altor dit que quelqu'un attaque les trolocs! Seigneur Perrine !»
Alors qu'il était à mi-chemin de Tel, boitant à cause de sa jambe blessée, Perrine comprit enfin les propos du gamin. Glissant sa hache dans sa ceinture, il prit le garçon par les épaules et le tint à bout de bras devant lui.
« Attaquer les trolocs? Qui ça ?»«
Je n'en sais rien, Seigneur Perrine. Maître Altor m'a dit de préciser qu'il a entendu quelqu'un crier « Promenade de Devennes !»
Aram prit Perrine par un bras et, sans un mot, désigna quelque chose avec son épée rouge de sang. Tournant la tête, le jeune homme vit qu'une volée de flèches s'abattait sur les monstres, en provenance du nord, et une autre pluie de fer allait tomber sur les assaillants.
« Va rejoindre les enfants !»
lança Perrine en posant le gamin par terre.
« File ! Et bravo pour ce que tu as fait !»
Souriant, le petit messager courut vers la place verte. Pour voir ce qui se passait, Perrine avait besoin de « prendre de la hauteur ». Sans se soucier de sa jambe, et tant pis s'il avait quelque chose de cassé, il courut jusqu'à Trotteur, attrapa au vol les rênes que lui lança Tel et sauta en selle. Ce qu'il vit alors lui donna l'impression qu'il faisait un rêve éveillé. À la lisière des champs, ou plutôt de ce qui en restait, sous un étendard arborant un aigle rouge, des paysans disposés en rang comme de vrais soldats tiraient à l'arc avec application. Juste à côté de l'étendard, Fail était perché sur Hirondelle, et Bane se tenait à ses côtés. Malgré le voile noir, ça ne pouvait être que Bane, pas vrai? Fail, quant à elle, semblait à la fois surexcitée, effrayée et débordante d'enthousiasme. Et plus belle que jamais. Des Myrdraal tentaient de rallier des monstres pour lancer un assaut contre les renforts venus de Colline de la Garde, mais ça ne servait à rien. Les rares qui obéissaient étant criblés de flèches en moins de temps qu'il fallait pour le dire. Un blafard et son cheval s'effondrèrent, pas à cause des archers, mais parce que des trolocs paniqués les renversèrent en fuyant. L'espoir avait changé de camp désormais, et c'était au tour des monstres de battre en retraite. Pris entre deux feux, maintenant que les archers de Chandémon ne pouvaient de nouveau tirer tranquillement, ils tombaient comme des mouches. Une boucherie, mais Perrine ne voyait que Fail.
« Seigneur Perrine !»
appela le même petit messager. Malgré les cris de joie des hommes et des femmes de Deux-Rivières, Perrine entendit l'enfant. Jetant un dernier coup d'œil au trolloc en déroute, très peu se tireraient vivant de ce traquenard, il aurait parié sa chemise là-dessus, le général baissa les yeux sur le gamin brun qui le tirait à présent par une jambe de son pantalon.
« Seigneur Perrine, Maître Altor te fait dire que les trolocs s'enfuient. Et il crie « Promenade de Devennes !» Les hommes, je veux dire. »
Perrine se pencha pour ébouriffer les cheveux frisés du gamin.
« Comment t'appelles-tu, fiston ?»«
James Aibara, Seigneur Perrine. Je suis ton cousin, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. »
Perrine ferma les yeux pour contenir ses larmes. Même quand il les rouvrit, sa main tremblait encore sur la tête du gosse.
« Eh bien, cousin James, tu raconteras à tes enfants ce qui est arrivé aujourd'hui, puis à tes petits-enfants et à tes arrière-petits-enfants. »«
Je n'aurai pas d'enfants, »
marmonna James.
« Les filles sont méchantes. Elles se moquent des garçons. Rien d'amusant ne les intéresse, et on ne comprend jamais ce qu'elles racontent. »«
Un jour, tu découvriras qu'elles sont très gentilles, au contraire. Tout ce que tu dis n'est pas faux, mais... sur ce point, tu changeras d'avis. »
Fail. James ne parut pas convaincu, mais il sourit soudain et claqua joyeusement des doigts.
« Attends un peu que je dise ça, Ad. Le seigneur Perrine m'appelle cousin. »
Sur ces mots, James partit rejoindre Ad, un garçon qui aurait un jour des enfants comme tous les autres. Perrine leva les yeux et s'aperçut que le soleil était à son zénith. Une heure. Tout ça n'avait duré qu'une heure. Si on lui avait posé la question, il aurait plutôt parlé d'une éternité. Trotteur se mettant en chemin, il supposa qu'il l'avait talonné. Toujours occupé à se réjouir, les défenseurs s'écartèrent devant leur général. Là où les trolocs avaient franchi la ligne de pieux par la seule force du nombre, il restait des montagnes de cadavres que le jeune homme ne remarqua même pas. Pareillement, il n'accorda pas un regard aux dépouilles qui jonchaient le sol, y compris celles de blafards criblés de flèches et pourtant encore en train de se tortiller sur le sol. Plus rien n'intéressait Perrine, à part Fail. Quand elle l'aperçut, la jeune femme s'écarta des hommes de Colline de la Garde, et après avoir fait signe à Bane de ne pas la suivre, elle avança à la rencontre de son mari. Quelle cavalière élégante ! les rênes à peine serrées, elle dirigeait en fait Hirondelle avec les genoux, comme une authentique experte en équitation. Le ruban nuptial était toujours noué dans ses cheveux, ses extrémités lui tombant sur les épaules. Perrine songea qu'il devrait trouver des fleurs pour sa belle. Un moment, les yeux inclinés de Fail étudièrent Perrine avec un certain manque d'assurance. Intimider Fail ? Impossible. Même si son odeur semblait le confirmer.
« J'ai accepté de partir, »
dit-elle, le menton pointé.
« Mais je n'ai jamais précisé où. »
Hirondelle s'agitant un peu, elle l'apaisa sans même y penser.
« Perrine, tu ne peux pas dire le contraire. Je n'ai jamais précisé où. »
Le jeune homme aurait été en mal de dire quoi que ce soit. Le souffle coupé par la beauté de sa femme, il aurait voulu passer le reste de sa vie à la regarder. Elle était là, vivante, et avec lui. Une bonne odeur de savon aux herbes et de saine sueur venant caresser ses narines, il avait à la fois envie de rire et de pleurer. Inspirant à fond, il tenta d'absorber en lui le parfum de sa bien-aimée. Perplexe, Fail continua son plaidoyer.
« Ils étaient prêts, Perrine. Tu dois me croire. Je n'ai pas eu besoin de les convaincre. Les Trollocs n'ont pas fait grand mal chez eux, mais ils ont tous vu la fumée, tu comprends ? Tu sais, nous n'avons pas traîné, Bane et moi, et nous avons atteint Colline de la Garde bien avant l'aube, pour en repartir dès le lever du soleil. »
Fail sourit enfin, rayonnante de fierté. Comment pouvait-on avoir un si beau sourire ?
Ils m'ont suivi, Perrine, tu m'entends ? Thénobia elle-même n'a jamais conduit des hommes à la bataille. Elle en avait l'intention. J'avais 8 ans à l'époque. Mais son père lui a parlé en privé, puis il est parti seul pour la flétrissure.
Fail eut un sourire un rien mélancolique.
Je pense qu'il avait recours aux mêmes méthodes que toi dans certaines situations. Thénobia l'a fait exiler, mais elle n'avait que 16 ans, et le Conseil des Seigneurs a fini par la faire revenir sur sa décision. Quand je lui raconterai tout ça, elle sera verte de jalousie.
Fail marqua une nouvelle pause. Les poings plaqués sur les hanches, elle prit une profonde inspiration.
« Tu as décidé de ne plus jamais rien dire ? Aurais-tu l'intention de rester assis sur ta selle comme un idiot échevelé ? Perrine, je n'ai jamais dit que je sortirais de Deux-Rivières. C'est toi qui en as parlé. De quel droit serais-tu furieux parce que je n'ai pas tenu une promesse que je n'ai jamais faite ? Tu voulais m'envoyer au loin parce que tu croyais mourir aujourd'hui. Moi, je suis revenu pour... Je t'aime. »
3 mots. Tout ce que Perrine parvint à dire. Mais bizarrement, ça parut suffisant. Dès qu'il les eut prononcés, ces 3 mots, Fail fit approcher Hirondelle, la collant à trotteur, puis elle se pencha, passa un bras autour de la taille de Perrine et posa la tête sur son épaule. Le serrant très fort comme si elle voulait le casser en deux, elle se laissa caresser les cheveux en silence. Perrine se contenta de savourer sa présence. En temps normal, on ne mesurait pas l'importance que ça pouvait avoir, une présence.
« J'ai eu si peur d'arriver trop tard, »
soupira Fail.
« Les hommes de Colline de la Garde ont marché le plus vite possible. » Et quand j'ai vu les Trollocs parmi les maisons, j'ai cru que le village semblait être dévasté par une avalanche noire. Et je n'arrivais pas à te repérer. »
Fail respira à fond, expira, et reprit d'un ton plus calme.
« Les gens de promenade de Deven sont venus ?»
Perrine sursauta, et sa main s'immobilisa sur les cheveux de Fail.
« Oui. Comment sais-tu ça ? C'est également ton œuvre ?»
La jeune femme se mit à trembler. Au bout d'un moment, Perrine s'avisa qu'elle riait.
« Non, mon cœur, même si je m'en serais chargé, si j'avais pu. Quand cet homme est arrivé avec son message « Nous venons », j'ai pensé, ou espéré, qu'il annonçait des renforts. »
S'écartant un peu, Fail leva les yeux sur son mari.
« Je ne pouvais pas te le dire, faire naître en toi de faux espoirs. Si je m'étais trompé, ça aurait été trop cruel. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. »
Perrine souleva Fail de sa selle et l'assit en amazone sur la partie avant de la sienne. La jeune femme protesta, sourit, puis se pencha au-dessus du trousquin pour jeter les bras autour du cou de son époux.
« Je ne serai jamais en colère contre toi, c'est pro... »
Fail posa un index sur les lèvres de Perrine.
« La pire chose que mon père ait faite à ma mère, c'est de jurer qu'il ne serait jamais furieux contre elle. C'est elle-même qui me l'a dit, et il lui a fallu 1 an pour le forcer à reprendre sa parole, et le libérer d'un poids insupportable en réalité. Perrine, tu seras en colère contre moi, et je m'énerverai contre toi. Si tu veux promettre quelque chose, me faire un autre serment nuptial, « jure que tu ne me cacheras jamais ta colère. Si tu la dissimules, je ne pourrai rien faire pour l'apaiser, mon époux. »« Mon époux ? Dis donc, ça sonne bien comme ça. »
Perrine nota que Fail n'avait pas promis de ne jamais lui cacher sa colère ou son désagrément. Selon son expérience, pour s'en apercevoir, il devrait le plus souvent fournir des efforts surhumains. Dans le même ordre d'idées, elle n'avait pas non plus juré de ne pas avoir de secret pour lui. Mais tout ça n'avait aucune importance, puisqu'elle était avec lui.
Quand tu me taperas sur les nerfs, je te le ferai savoir, mon épouse.
Fail jeta à Perrine un regard en coin, comme si elle ne savait pas exactement comment prendre cette déclaration.
« Tu ne comprendras jamais rien à ce qu'elle raconte, cousin James. Mais ça ne te dérangera plus. »
Perrine prit soudain conscience du charnier qui l'entourait. Sur le sol jonché de dépouilles, des myrdrals se convulsaient encore, comme s'ils refusaient de mourir pour de bon. Et les trolloques, il y en avait partout, à perte de vue. Un cimetière de créatures des ténèbres, au-dessus duquel des vautours tournaient déjà en cercle, attendant le moment propice pour festoyer. En revanche, pas de corbeaux en vue. Au sud, si James avait dit vrai, ce devait être exactement la même chose. D'ailleurs, on apercevait également des vautours. Un massacre. Mais rien qui puisse venger Dézel, Adora ou le petit Paète. Quoi qu'il arrive, aucun triomphe ne compenserait jamais ces pertes-là. Perrine serra Fail assez fort pour lui arracher un petit cri. Quand il voulut relâcher sa pression, elle posa les mains sur ses bras pour l'en empêcher. Cette femme pouvait tout compenser. Oui, tous les malheurs, tant qu'il parviendrait à ne pas la perdre. Des vainqueurs émergeaient de Champ des Mondes. Marine le soutenant, un grand sourire aux lèvres, Bran utilisait sa lance comme une canne. Un peu plus loin, Wight serrait Dace dans ses bras sous le regard presque ému de Gaul et de Shiad, main dans la main, leur voile noire baissée. Les oreilles en berne, Loyal semblait encore plus épuisé. Alors que Tam avait le visage en sang, Flan Lewin n'aurait sûrement pas tenu debout sans le secours d'Adine, son épouse. Presque tous les défenseurs, hommes comme femmes, portaient au moins un bandage ensanglanté. Mais ils approchaient, telle une bonne et douce marée. Elam et Dav, Ewin et Aram, Eward Gondwin et Buel Dautry. Perrine aperçut Hu et Tad, les palefreniers de l'auberge, puis Ban, Tel, les compagnons et leur ridicule étendard. Cette fois, il ne se concentra pas sur les amis qui manquaient, mais sur ceux qui étaient toujours là. Vérine et Alana, toutes deux à cheval, Thomas et Yvonne juste derrière elles. Le vieux Billy Congar, lesté d'une chope qui devait contenir de la bière ou mieux encore, de l'eau-de-vie. Senbui, toujours aussi ratatiné et couvert de bleu. Jack Alcine, un bras autour de la taille de sa femme avec autour de lui ses fils, ses filles, ses brus et ses gendres. Raen et Hila, des bébés toujours attachés dans le dos. Et tant de visages qu'ils ne connaissaient pas. Des hommes sans doute venus de promenades de Deven et des exploitations environnantes. Des petits garçons et des fillettes couraient partout, heureux de vivre. Tous ces survivants vinrent former avec les hommes de Colline de la Garde un grand cercle autour de Perrine et de Fail. S'ils évitaient d'approcher des blafards moribonds, tous ces gens semblaient ne pas voir le charnier, parce que leurs regards se braquaient sur le couple dont Trotteur supportait bravement le poids.
« Pourquoi ne disent-ils rien? Et pour quelle raison nous regardent-ils comme ça ?»
En colonne par quatre, comme d'habitude, les fils de la lumière sortirent eux aussi du village, Dane Bornald et Jared Billard à leur tête. Leur cape immaculée, toutes les lances tenues selon exactement le même angle, les cavaliers avançaient comme à la parade. Même si des murmures coururent dans le cercle, les défenseurs s'écartèrent pour permettre aux capes blanches d'y entrer. Bornald leva une main gantelée. Aussitôt, la colonne s'immobilisa dans un concert de grincements de harnais et de selle.
« C'est fini, créature des ténèbres !»
lança Bornald à Perrine. Billard eut un rictus mauvais, mais son chef continua d'une voix égale.
« Les trolloques ont perdu. Comme convenu, je viens t'arrêter parce que tu es un suppôt des ténèbres et un meurtrier. »«
Non !»
s'écria Fail. Elle regarda Perrine, folle de rage.
« Que veut-il dire par « comme convenu » ?»
Perrine faillit ne pas entendre, car des cris montaient de toutes parts.
« Non ! Non !
Vous ne l'emmènerez pas !
Yeux jaunes ! Yeux jaunes ! Yeux jaunes !
Yeux jaunes ! »
Les yeux rivés sur Bornald, Perrine leva une main pour demander le silence. Quand le calme fut revenu, il dit très calmement.
« J'ai promis de ne pas résister si vous nous aidiez, Cap Blanche. Où étiez-vous pendant la bataille ?»
Bornald ne répondit pas. Son mari, Wight, accroché à elle comme s'il avait décidé de ne plus jamais la lâcher, Dace Congar sortit du cercle, son bras musclé autour de l'épaule du petit homme, à croire qu'elle avait pris la même décision le concernant. Alors que Dace plantait sa fourche dans le sol, l'air résolu, Perrine songea que ce couple faisait une image plutôt étrange. Une grande femme musclée qui serrait contre elle son mari, plus petit et très mince, comme si elle voulait le protéger.
« Les fils de la lumière sont restés sur la place verte !»
annonça Dace.
« Tous très proprement alignés, comme des débutantes avant le bal de la fête du soleil. Ils n'ont pas bougé un cil, et c'est ça qui nous a décidés à venir. »
Toutes les femmes hochèrent la tête.
« Voir que vous étiez presque débordés. Et ces types qui restaient là à ne rien faire, comme des nœuds sur un tronc d'arbre.
Crois-tu que je t'avais fait confiance ?
Demanda Bornald à Perrine, sans cesser de le dévisager.
Ton plan a échoué parce que des renforts sont arrivés. Des renforts que tu n'attendais surtout pas.
Fail s'agita nerveusement. Sans quitter l'officier du regard, Perrine plaqua un index sur les lèvres de la jeune femme pour lui faire signe de se taire. Son épouse lui mordit le doigt, très fort, mais elle obéit.
« J'assisterai à ta pendaison, créature des ténèbres !»
lança Bornald, s'échauffant de plus en plus.
« Oui ! Quoi que ça me coûte, j'y assisterai ! Même si le monde se consume, je te verrai mort !»
Biard dégaina à moitié son épée. Le fils qui se tenait derrière lui, nommé Pharan, crut se souvenir Perrine, tira complètement sa lame au clair avec un grand sourire ravi. Le bruit caractéristique d'une flèche qu'on sort de son carquois, mais multiplié par mille, pétrifia les deux hommes. Sur la circonférence du cercle, tous les archers levèrent leur arc, chacun le braquant sur la poitrine d'une cape blanche. Sur toute la longueur de la colonne, des cavaliers bougèrent fébrilement sur leurs selles. Bornald ne semblait pas avoir peur, et son odeur confirmait cette hypothèse. De lui, il n'émanait plus que la puanteur de la haine. Les yeux maintenant embrasés, il balaya du regard le cercle de défenseurs, puis se concentra de nouveau sur Perrine. Le général fit signe aux archers de baisser leurs armes. À contre-cœur, tous lui obéirent.
« Vous ne nous avez pas aidés !»
lâcha Perrine, glaciale.
« Depuis que vous êtes sur le territoire, vous n'avez jamais rien fait pour sa population. Pendant que les gens mouraient, leurs fermes incendiées, vous cherchiez des suppôts des ténèbres parfaitement imaginaires. »
Bornald eut un frémissement d'inquiétude.
« Cap Blanche, il est temps que tes hommes et toi vous en alliez. Pas seulement de Champ des Mondes, mais de deux rivières. Et si j'étais toi, Bornald, je ne traînerais pas une minute de plus. Je te verrais mort !»
siffla Bornald. Il fit néanmoins signe à la colonne de se remettre en route. Puis il lança sa monture au trot, manquant percuter Perrine. Le jeune homme tira sur les rênes de trotteur, qui s'écarta docilement. Tant pis pour cette dernière provocation du Fils de la Lumière. L'important, c'était que ces hommes s'en aillent, afin qu'il n'y ait plus de tuerie. Bornald ne tourna pas la tête. En revanche, Biard riva longtemps son regard haineux sur Perrine. Pharan, lui, pour une raison inconnue, sembla dévisager le général avec quelques regrets. Les autres fils passèrent devant Perrine sans lui accorder un regard. En silence, le cercle de défenseurs s'ouvrit pour laisser les soldats s'éloigner vers le nord. Une dizaine d'hommes à pied approchèrent de Perrine. Quelques-uns arborant des pièces d'armure mal assorties, ils regardaient passer les derniers fils de la lumière avec un mélange de déplaisir et de soulagement. Dans ce groupe, le jeune homme ne reconnut personne. Armé d'un arc, le gaillard au nez proéminent qui semblait en être le chef, un homme aux cheveux blancs et à la peau tannée, revêtu d'une cotte de maille d'où dépassait cependant le col d'une veste de fermier, vint s'incliner devant Perrine.
« Seigneur Perrine, je me nomme Djerinvar Barstere, mais tout le monde m'appelle Djer. Désolé de vous déranger, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, certains d'entre nous vont suivre les fils pour s'assurer qu'ils fichent bien le camp. Vous savez, pas mal d'entre nous aimeraient rentrer à la maison, même s'ils savent qu'ils n'y arriveront pas avant la tombée de la nuit. À Colline de la Garde, il y a une garnison de Cap Blanche. À peu près autant d'hommes que cette colonne. Bien entendu, ces lâches n'ont pas voulu nous accompagner. Prétendument parce qu'ils ont ordre de tenir leur position. Un tas d'imbéciles, si je puis me permettre. Et nous en avons assez de leur présence. Ils ne servent à rien. En revanche, ils sont toujours bons à farfouiller dans la vie des gens, les incitant à accuser leurs voisins des pires abominations. Nous nous assurerons qu'ils lèvent le camp, si vous le voulez bien. »
Djer jeta un regard confus à Fail, mais ça ne tarit pas son flot de paroles.
« Désolé, dame Fail, je ne veux surtout pas vous déranger, votre seigneur et vous, mais je veux qu'il sache que nous sommes avec lui. Au fait, seigneur, vous avez une épouse formidable. Oui, formidable. Le compliment vient du cœur, dame Fail. Il fait encore jour et, comme on dit chez nous, bavarder n'a jamais tendu un mouton. Encore toutes mes excuses de vous avoir dérangé. »
Djer s'inclina, les autres l'imitèrent, puis tous partirent vers le nord, à la traîne des capes blanches.
« Allons, allons. Qu'est-ce qui nous a pris d'embêter comme ça le seigneur et sa dame ?»
murmura Djer en s'éloignant.
« Nous avons encore tant de pain sur la planche. Qui était-ce ?»
demanda Perrine, encore traumatisée par la logorée du brave Djer. Daze et Sen, les deux plus grands bavards de Champ des Mondes, ne lui arrivaient pas à la cheville.
« Fail, tu le connais ?»«
Maître Barstere est le bourgmestre de Colline de la Garde. Les autres sont les membres du conseil. » Dès que les hommes auront annoncé que le calme est revenu, le cercle des femmes nous enverra une délégation dirigée par la sage-dame, afin de voir si ce seigneur Perrine est une bonne chose pour Deux-Rivières, officiellement en tout cas.
mais ces femmes m'ont demandé de leur montrer comment s'incliner devant toi, et leur sage-dame, Edel Gaelin, a l'intention de t'apporter une de ces célèbres tartes aux pommes séchées.
« Que la lumière me brûle !»
s'écria Perrine. Ces histoires de seigneurs se répandaient dans tout le territoire. Il aurait dû y mettre bon ordre dès le début, mais voilà ce qu'on récoltait à être trop mou.
« Je suis un forgeron ! Vous m'entendez ? Un forgeron !»
Jer Barstere se retourna, hocha sentencieusement la tête, puis continua son chemin. Coquine, Fay le tira sur la barbe du jeune homme.
« Tu es un adorable idiot, seigneur forgeron. Il est bien trop tard pour revenir en arrière. »
La jeune femme eut un sourire vraiment coquin.
« Mon époux, envisages-tu de passer un moment en tête-à-tête avec ta femme ? Le mariage semble m'avoir rendue aussi audacieuse et aussi provocante qu'une domanie. Je sais que tu es fatigué, mais... »
S'interrompant, Fail poussa un petit cri et s'accrocha à la veste de Perrine lorsqu'il talonna trotteur, le lançant au galop vers l'auberge. Pour une fois, les vivates qui saluèrent le jeune homme ne lui firent ni chaud ni froid.
« Seigneur Perrine, Dieu jaune ! Seigneur Perrine, Dieu jaune !
Seigneur Perrine, Dieu jaune ! »
Oui, oui, il verrait ça plus tard. Perché sur la plus grosse branche d'un chêne, à la lisière du bois de l'Ouest, Ordeit braquait un regard haineux sur Chandemonde. Enfin, ce qui venait de se passer était impensable.
« Les rayés de la carte ! Oui, tout s'est déroulé selon le plan. »
Même Issam avait joué dans la main d'Ordeit, ce qui n'était pas peu dire.
« Mais pourquoi a-t-il cessé de faire venir les Trollocs ? Le territoire aurait dû en être noir s'il avait fait son travail !»
Ordeit bavait, mais il ne s'en aperçut pas. Pareillement, il ne s'avisa pas que sa main fourrageait le long de sa ceinture.
« Les harceler jusqu'à ce que leur cœur explose ! Les enterrer vivants et se délecter de leurs cris !»
Tout était prévu pour attirer Rand ici, vers lui, et pour quel résultat ? Une catastrophe. Deux rivières n'avaient même pas été égratignées. Que valaient quelques fermes brûlées et une poignée de paysans découpés vifs pour garnir les chaudrons des Trollocs ?
Je veux que deux rivières brûlent et que le souvenir des flammes se grave dans la mémoire des hommes pour les 10 siècles à venir.
Ordeit étudia l'étendard qui flottait au milieu du village, puis celui qui oscillait au vent devant lui. Une tête de loup rouge et un aigle tout aussi écarlate. Du rouge pour le sang que ce territoire verserait pour faire hurler à la mort Randaltor.
Manéthérène, c'est donc ça l'étendard de Manéthérène ?
Quelqu'un avait parlé du passé à ces gens. Mais ces crétins, que savaient-ils de la gloire de Manéthérène ?
Manéthérène, oui.
Il y avait plusieurs façons de rayer cette vermine de la carte. Éclatant de rire, Ordeit faillit tomber de sa branche, à laquelle il ne se tenait pas à deux mains. Parce que la droite, constata-t-il, cherchait le long de sa ceinture la dague qui aurait dû y être accrochée. Du coup, son rire se transforma en un ricanement. La tour blanche détenait ce qu'on lui avait volé. Ce qui lui revenait selon des droits aussi anciens que la garde des Trollocs. Ordeit se laissa tomber du chêne et enfourcha son cheval sans daigner regarder ses compagnons. Sa meute de molosses, plutôt. Une trentaine de fils de la lumière qui ne portaient plus leur cape blanche, bien évidemment. Sous leur armure ternie et leurs vêtements crasseux, Bornald n'aurait jamais reconnu ses fiers soldats. Aujourd'hui hirsutes et barbus, ces déchets d'humanité crevaient de peur devant Ordeit, un sentiment qui les rendait tellement plus dociles. Tant que c'était possible, ils évitaient de poser les yeux sur le Myr Drahal qui se tenait parmi eux, son visage blafard et sans yeux aussi inexpressif que le leur. Le demi-humain avait peur, comme eux. Peur qu'Issam lui mette la main dessus et le punisse à cause de l'attaque de Bac-sur-Taren. Issam avait détesté que tant de survivants aient pu s'enfuir pour raconter partout ce qui se passait à Deux-Rivières. À l'idée qu'Issam soit contrarié, Ordeit gloussa bêtement. Un jour, il faudrait qu'il s'occupe de cet homme, s'il n'était pas mort d'ici là.
« En route pour Tar-Valon !»
cria Ordeit. Il faudrait chevaucher vite pour arriver au bac avant Bornald. Penser que l'étendard de Manéthéren flottait de nouveau sur Deux-Rivières après tant de siècles. Penser à tout le mal que l'Aigle Rouge lui avait fait en ce temps-là.
« Mais d'abord, Kemlin ! Les rayés de la carte, tous !»«
Que deux rivières paient d'abord, puis Randaltor, puis... » Toujours hilar, Ordeit partit au grand galop dans la forêt, en direction du nord. Inutile de se retourner pour voir si les autres le suivaient. Que pouvait-il faire d'autre, désormais ?